43 71 89 40 sur Radio Libertaire. La Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Bah, c'est Métro République ou Fille du Calvaire. C'est ouvert du mardi au samedi, même dimanche, je crois, maintenant. Ah oui, bien sûr. De 13h à fin d'après-midi. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Charline Dossa.
Bonjour,
mademoiselle, c'est un plaisir. Je vous rappellerai que vous êtes déjà venu ici, hein, parce que vous avez trop de mémoire, il me semble. Monsieur Le Cercle aussi, vous êtes déjà venu, vous.
Bonjour, hein. Oui.
D'accord.
Tout à fait.
Vous souvenez, vous?
Ah, je me souviens, oui.
D'accord. Vous avez été traumatisé, d'ailleurs. D'accord. Cécile, bonjour.
Bonjour,
Noël. Petit taille. Et en cabine, il ne faut pas oublier Monique, hein, tout le monde la reconnaît.
Bon,
hein.
Oui,
alors, je vais vous dire un grand secret. Je reçois même des mails maintenant. On me demande où est Monique. Alors, c'est comme ça. C'est pire. Mais bien sûr, ils sont tous traumatisés là. Alors, pourquoi je vous ai rassemblés tous autour de ce micro pour une chose apparemment contradictoire. L'émission s'intitule « Où sont les morts? Où sont les vivants ?» Voilà. Pourquoi « Où sont les morts? Où sont les vivants ?» Parce que je vous ai eu tous les deux de façon quasiment simultanée. Hein, la conférence de Charline. C'est quoi le sujet?
Donc c'est les vampires féminins dans la Caraïbe anglophone, donc voilà, dans le folklore, toutes les figures féminines diaboliques, mais qui aujourd'hui sont retravaillées par des autrices notamment.
Vous tenez à ce mot autrice, vous?
Oui.
Vous êtes née très bien, nul n'est parfait. Oui.
Voilà, qui se réapproprient ces figures considérées comme diaboliques pour en faire des figures d'émancipation et de pouvoir féminin.
C'est un texte politique?
Oui. J'ai choisi d'adopter une interprétation féministe et décoloniale.
Décoloniale, voilà.
Donc,
c'est politique. Et contre le patriarcat aussi, si j'ai bien compris.
Oui, aussi, voilà. Féministe.
Vous en avez marre de tous les pères de famille de la Terre.
Bah oui.
D'accord. Donc j'ai trouvé ça très vivant, et en fin de compte, vu que c'était très politique, très branché sur la vie. Sur la vie. Monsieur Le Cercle, avec Rencontre et séduction connectée, édition Place d'Armes, comme d'habitude, c'est trouvable où ça? Parce que vous y tenez à
Publico.
Oui, encore.
Quilombo.
Ouais.
Et un peu partout.
D'accord.
Il est référencé, donc n'importe quel libraire, normalement, devrait arriver à le commander s'il insiste un petit peu, s'il cherche un petit peu.
Oui. Donc. Et là, j'ai l'impression que vous avez... On aura beaucoup de désaccords, je tenais à vous le dire. Restez assis. J'ai l'impression que le monde auquel vous vous adressez était un monde sans vie. C'est-à-dire un monde sans odeur, un monde sans goût et un monde sans politique.
Les lecteurs
ces gens qui usent des réseaux.
Ah oui, tout à fait, oui.
Voilà.
Oui, c'est peut-être en cela, effectivement, qu'on se rapproche où sont les vivants, où sont les morts.
Bien sûr.
Est-ce que dans notre société, il y a encore des vivants?
Ça vous intéresse, les vampires, vous?
J'aime bien les zombies.
J'aime bien les zombies. Et c'est quoi la différence entre les zombies? C'est quoi la différence?
Les zombies
sont morts.
Sont morts.
Pas les vampires.
Les vampires sont vivants, c'est bien ce que je disais.
Oui.
Bien sûr. Mais Charline, ça vous intéresse pas les bons vieux vampires occidentaux? Vous les connaissez ou pas?
Moins bien. C'est pas mon domaine de prédilection, mais ça a influencé les vampires aussi dans la Caraïbe, puisque c'est des anciens territoires colonisés par l'Empire britannique. Donc toutes les histoires de vampires européens ont eu un impact, notamment sur la vision des femmes vampires, aussi dans tout l'empire colonial.
Les zombies, ce sont des morts vivants.
Oui, plutôt.
C'est ça.
Oui. Oui. Mais c'était enfin le thème des vampires. Pour le romantisme allemand, c'était important, le thème du vampire. Et je repense alors après pour l'expressionniste, avec Nosferatu, et puis je ne me rappelle plus comment s'appelle cet acteur qui est dedans, où on voit vraiment une grande histoire d'amour qui se tisse entre Nosferatu et
Peter Lorre.
Non, je ne sais pas si Peter, je ne m'en rappelle plus, Mais en tout cas, c'était un thème éminemment romantique.
Et berlinois.
Oui.
C'est à Berlin.
Oui.
Comme par hasard.
Mais avez-vous vu le film ou pas, Nosferatu?
Non.
D'accord.
C'est Murnau.
C'est ça.
C'est ça.
Alors, vu votre état, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur, donc je conseille votre état. Je vous rappelle quand même que vous êtes venu plusieurs fois ici.
Oui.
Hein, pour un mal armé. Non, alors, vous n'êtes pas venu pour un mal armé.
Oui,
non,
c'est possible.
C'est Chiloche
possible.
La tête, parce que c'est bien lui.
Il est venu pour ça. Confirme.
D'accord. Pour un mal armé. Pour un livre sur le rap.
Oui. Tout à fait.
C'est possible. Vous n'étiez pas très tendre pour le rap.
Oui.
Même, voilà. Oui. Ça vous intéresse, le rap?
Beaucoup.
D'accord.
Oui, mais moi, je suis plutôt pour.
Mais pour le rap.
Bah, oui.
C'est un rap politique aussi.
Pas toujours.
Non, pas d'accord.
C'est ça qui est intéressant avec le rap, c'est que ça peut être et politique et aussi purement du divertissement et de la musique qu'on a envie de
faire. Mais à l'époque, enfin, je te coupe, mais à l'époque, sur le rap, c'est vraiment l'époque où il y a eu toute cette espèce de démagogie à l'égard des rappeurs. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde essuyait sa larme en disant « Ah oui, les pauvres malheureux, etc. » Et puis, ils avaient un discours politique qui était extrêmement caricatural et qui était semé à leur d'homophobie et puis surtout d'antisémitisme. Et c'est ce qui m'avait profondément déplu dans le rap.
Alors, comme ma mémoire à moi, je vous l'avoue, est pleine de trous, est-ce qu'il est possible qu'on ait fait une émission sur Bernard Lazare?
C'est possible. C'est possible. Alors, peut-être indirectement sur Bernard Lazare et beaucoup plus sur Pelloutier.
Non, mais il n'y a pas un numéro de Place d'Armes sur Bernard Lazare?
Si, alors il y a les conférences de Bernard Lazare sur la littérature et l'anarchie, justement. Mais j'ai pas souvenir. Enfin, je me rappelle avoir fait une émission avec notre ami Florial.
C'est pire, monsieur. Monsieur. D'accord. Mais c'était pour une transition. Faut dire qui est Bernard Lazare. C'est un journaliste juif, non?
C'est ça, tout à fait. C'est lui qui est essentiellement à l'origine, enfin, avant Zola, donc de l'affaire Dreyfus. Il était très très mal reçu à l'époque, hein, puisque dès 1894, il dénonce effectivement toute l'affaire Dreyfus, mais Zola intervient lui beaucoup plus tard. Et Zola, c'est Zola qui reçoit pratiquement tous les éloges, alors que Lazare, finalement, reçoit toute l'ingratitude de la famille Dreyfus.
Il tourne bien ou il tourne mal au cours de l'histoire, Bernard Lazare?
Il tourne bien. Enfin, oui, parce qu'à un moment, il arrive justement... puisque en même temps, il y a l'affaire Dreyfus, et en même temps, il y a Herzl qui apparaît, donc, et puis qui fait son livre effectivement sur l'État juif. Alors, Lazare se rapproche effectivement du sionisme, mais il se rend bien compte que finalement, ça va recréer une sorte de société qui va être extrêmement hiérarchique, et il se défait. Au deuxième congrès, je crois, si mes souvenirs sont bons, il s'éloigne du sionisme, il rompt avec le sionisme. Alors, ça se voit dans une, j'ai oublié le nom, je crois que c'est dans l'éco-sioniste, une revue qui s'appelle l'éco-sioniste, ou...
Donc je vous ai tendu la perche là. J'ai vu qu'on va se dire tout sera plus simple. Le succès ne nous a pas grisé ni l'un ni l'autre. Je veux dire, tu travaillerais sur le rapport des juifs et l'anarchie fin 19e.
C'est ça. Sur les juifs, alors pas sur n'importe quel juif et pas sur n'importe quelle anarchie, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et ça vient finalement d'un étonnement qui a toujours été le mien par rapport au milieu juif, au milieu anarchiste, à savoir que bon, les juifs anarchistes, finalement, c'est les juifs de l'immigration surtout, puisque les juifs qui étaient en France, eux, et d'ailleurs qu'on appelait plus les juifs, hein, qu'on appelait les israélites, parce que justement ils avaient bénéficié d'une intégration, ils se souciaient plus trop finalement de ce qui pouvait se passer dans le milieu ouvrier. Lazare en parle d'ailleurs un moment dans les mes souvenirs sont bons, dans les entretiens politiques et littéraires.
Jean-Pierre, on est fin 19e,
oui.
Et ce sont des gens qui habitaient en Europe centrale,
c'est ça,
qui sont
c'est
arrivés
ça.
À Paris, c'est ça.
C'est ça, alors ils sont arrivés, bon, il y a eu plusieurs vagues d'émigration. La première vague d'émigration, c'était à la suite des pogroms à Odessa, donc ils sont tous arrivés à Paris. Alors, Paris est un petit peu une plaque tournante parce que... Il y en a qui partaient ensuite directement aux États-Unis, qui partaient de là aux États-Unis ou alors en Angleterre. Ils étaient vraiment pris par le rêve américain, déjà. Par l'idée que c'est en Amérique qu'ils arriveraient effectivement à faire fortune. Alors, après, bon, certains sont partis en Amérique du Sud, notamment en Argentine.
Mais ça, c'est une tradition qui vient des Saint-Simoniens. Ils se sont installés soit en Égypte, soit en Israël, soit en Amérique du Sud.
Oui, tout à fait. Hein? Et puis, donc, après, Amérique du Nord, New York. Et ceux qui sont restés à Paris, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne parlaient pas français, précisément. Et ils avaient beaucoup de mal, justement, à communiquer avec les ouvriers français et à mettre en place des pratiques sociales un petit peu subversives, puisque ils étaient employés, alors, peut-être un petit peu plus tard, mais au début du XXe siècle, le garde du Nord, il y avait les recruteurs qui étaient garde du Nord, hein, qui attendaient les juifs, qui descendaient des trains, qui étaient toujours un petit peu pouilleux ou alors habillés avec des costumes traditionnels.
Donc, ils vont en Israël.
Non, ils vont pas en Israël.
Ils vont pas en Israël. Ils vont pas, en Israël. Pas encore en Israël.
Non.
D'accord.
Non.
C'est
mieux. Bien que Israël au départ était surtout peuplé effectivement par les Juifs qui venaient d'Europe de l'Est.
Hein. C'est ce que je te dis.
Oui,
je veux dire qu'il y a, là-dedans il y a une illusion qui s'est faite, c'est-à-dire que des gens ont cru qu'il y aurait un État qui serait pas en fin de compte un État. C'est pour ça que
c'est une illusion. Mais alors cette illusion, bon, elle commence avec les Amantions, donc vers 1882 avec Leo Pinsker qui est le premier qui fait un livre finalement qui est extrêmement sioniste en disant il y aura toujours de l'antisémitisme, c'est pas la peine d'essayer de le guérir, il est fondamental, donc il vaut mieux qu'on aille ailleurs. Et à partir de là, donc, ils ont mis en place tout un tas des pré-kibbutz, en quelque sorte. Alors, c'était compliqué parce que il y a le Rothschild et puis l'autre, je m'en rappelle plus, un autre bienfaiteur qui était d'accord pour effectivement donner de l'argent pour l'installation des juifs en Israël, enfin sur la Terre Sainte. Mais le problème qu'il y avait, c'est que il voulait donner de l'argent, mais en même temps, il voulait avoir la mainmise sur l'agriculture. Et le modèle, c'était l'Algérie derrière. C'est-à-dire que c'est une
monoculture. Tu sais qu'il y a des textes très tôt qui apparaissent, qui disent que tout, même des textes dans des socialistes, hein, oui. Qui disent tout ça, c'est très bien, ils n'ont eu qu'un tort, c'est qu'ils ont oublié qu'il y avait des Arabes là-bas.
C'est ça, oui, tout à fait. Alors il y avait en même temps, bon, il y a toujours eu des juifs, hein, il y avait ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire une communauté qui est restée alors du premier exil, du deuxième exil, bon, une communauté qui est restée là et qui était fidèle effectivement aux traditions. Israël, ce qui correspond aujourd'hui à Israël n'a jamais été abandonné par les juifs, il y a toujours une communauté juive.
Ça vous inspire, Charline, ça t'inspire tout ça non, ou pas? Cette histoire d'Israël, cette histoire des gens qui ont conflué pour rêver d'un autre monde.
Bah aujourd'hui, c'est quand même ça pose question le sionisme aujourd'hui et bah notamment, enfin moi qui m'intéresse au décolonialisme, là, enfin c'est flagrant qu'il y ait une politique coloniale à l'œuvre de la part d'Israël en Palestine.
Mais quand on travaille sur les vampires en Haïti, on s'intéresse aussi à la situation politique actuelle en Haïti. Hein.
Oui, aussi.
Hein oui, ça, oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et qui vient du monde colonial.
Vient
de 1804.
Oui.
Hein, si on regarde bien ce qui s'est passé, les premières véritables révoltes, c'est 1804 avec Camarade Toussaint l'ouverture. Et puis après, ça dégénère. Hein.
Oui.
Donc, c'est une conférence, Moselle Dossin. Là, le titre, ce serait Jablès, Soukouyan, Loup-Gaou, Vampires et Femmes, OBA, dans la nouvelle des Caraïbes, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, c'est quoi une tu vas prendre quelque chose. voilà. C'est quoi une Jablès, une Soucouillant, une Loup-Gavou ?
Alors,
Loup-Gavou, je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, bah, c'est comme Loup-Garou. Mais alors, c'est donc toutes des femmes qui ont pour point commun de boire le sang de leurs victimes et de pouvoir se débarrasser de leur peau et aussi de pouvoir voler, de se transformer souvent en boule de feu et de pouvoir voler dans la nuit. Donc, c'est des figures du folklore caribéen. Et donc, elles ont ces points communs. Il y a des distinctions selon les différentes îles et des différents noms. Mais voilà, on peut... Là, pour simplifier, les regrouper sous la catégorie de vampires féminins. Et donc, elles sont utilisées dans des histoires pour enfants, notamment, pour les encourager à obéir, pour leur faire peur, et aussi pour disséminer les idées patriarcales chez les hommes et chez les femmes. Donc, normalement, aucune femme qui se respecte ne voudrait ressembler à une diablesse, à une soucouillante ou à une loup-garou. Puisque ce sont des figures totalement anti-maternelles et en fait qui...
Elles sont anti-maternelles.
Oui.
Mais elles sont anti-mâles aussi. J'aurais bien le savoir.
les diablesses, par exemple, elles se servent justement de leur pouvoir de séduction.
Ah, bravo, oui.
Pour faire des victimes et souvent des hommes qui mènent une vie un peu frivole, qui ont des relations extra-conjugales. Voilà.
D'accord.
Donc attention.
D'accord. Je suis sûr que toutes ces choses-là, on doit les retrouver dans les légendes aussi bien juives et choses comme ça. Hein. Ça existe, hein, ça existe.
Oui, je pense, oui.
Oui. Mais avant qu'on ait, on va écouter un peu de musique et on va tomber dans le texte. Drieu La Rochelle, qui était un personnage plus contradictoire, était antisémite, se voulait antisémite.
Oui.
Et il allait au bordel, et il avait des problèmes de puissance et d'impuissance, et il y avait une tradition au bordel, on donnait à l'homme qui était impuissant, on lui donnait une pute juive. Comme ça, la pute était responsable de l'impuissance du type qui était là. Donc, tout ça, sur le sang, sur la succion, sur tout ça, c'est des choses qui sont récurrentes, quoi. Hein? Et puis, en plus de ça, il avait une fiancée qui était juive. Genre, on écoute un peu de musique et puis on descend dans le texte. Hein?
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue main sans grand œil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine, le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Oh. au 01 43 71 89 40. Et merci Monique. Maintenant, Jean-Pierre Le Cercle a les mains dans les poches et ça vaut mieux. Hein, parce qu'il jouait du tam-tam sur la table et ça ne se fait pas. Donc, c'est le livre. On va revenir aux vampires, rassurez-vous, on a du boulot à faire. Hein. Rencontre et séduction connectées. Moi, j'avais mis, c'est marrant parce que j'avais mis rencontre au pluriel et séduction aussi au pluriel. Moi, dans ma tête. Voilà. C'est édition Place d'Armes. Ouais. Voilà. Bon, ça veut dire que j'ai appris une chose sur vous. Vous passez vos nuits devant les réseaux sociaux, là.
Pas forcément.
Ah, si. Pour faire un livre comme ça, il faut bien le savoir.
Pas forcément.
Parce que moi, je suis. Monique va rire en cabine. Moi, je ne sais pas le faire. Je suis incapable de le faire. Voilà, la quiesse.
Non, mais l'entomologie ne se fait pas clouer sur le liège, hein, pour parler des papillons.
D'accord.
Donc, celui qui réfléchit sur les réseaux sociaux ne se fait pas forcément clouer sur le liège.
Bon. Donc, vous avez quand même été sur les réseaux sociaux, il faut l'avouer. Avouez-le.
J'ai regardé.
Oui, c'est du propre, c'est du beau. C'est du beau. Alors, vous n'êtes pas de la même génération? Hein, vous pratiquez ça beaucoup mieux plus facilement que ce monsieur-là qui a la main qui tremble lorsqu'il va là-dessus. Ça vous, il y a quelque chose qui vous inspire ou c'est l'abstraction totale ou c'est pour passer le temps, c'est quoi les réseaux sociaux,
les applications de rencontres spécifiquement ou en général?
Oui, applications.
Moi, j'en utilise pas personnellement, mais je vois bien autour de moi que c'est quand même très populaire, très utilisé et apprécié. Oui, c'est un peu des montagnes russes, j'ai l'impression. Tout le monde a une période, puis se déconnecte, puis revient. Donc je pense que oui, il y a quelque chose d'addictif dans une certaine mesure là-dedans. Mais...
Alors moi, j'ai lu le livre Les Grandes Attentions, je l'ai annoté et tout, hein, on va avoir des accords. Mais j'ai l'impression que le sujet, non, Jean-Pierre, je parle sérieusement, est beaucoup plus large que ça. Parce que réseaux sociaux, un truc comme vous appelez ça comme ça, est-ce que c'est une partie intégrante, un épiphénomène, etc. En fin de compte, tout le livre, et c'est pour ça qu'on a passé cette chanson, c'est basé sur, en fin de compte, sur un manque de romantisme et de toute la société entière. C'est pas seulement les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas simplement non plus un manque de romantisme. C'est un manque de profondeur, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que les rencontres, bon, tout à l'heure on discutait, enfin j'ai pas trahi un secret en disant ce dont on parlait avant.
Comment ?
C'est effectivement des choses par le Minitel ou par les journaux d'annonce. Bon, les rencontres comme ça, un petit peu artificielles, ont toujours existé, mais d'une part, elles n'existaient pas avec sur le même fond, avec le même matériel qu'aujourd'hui. Elles n'existaient pas non plus en même quantité. C'était quand même quelque chose de relativement marginal. Le chasseur français, toutes les annonces, c'était pas l'essentiel des gens qui se rencontraient ainsi. Alors que maintenant, ça a l'impression quand même que par les réseaux sociaux, je pourrais pas dire de pourcentage, mais une majorité de jeunes quand même qui se rencontrent par les réseaux sociaux et qui aliènent finalement toute possibilité de se rencontrer autrement. Et
Non. Charline, qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux?
Ils cherchent, je pense, à rencontrer des gens qui correspondent à ce qu'ils attendent d'une relation. Donc, peut-être c'est dans cette idée de productivité, de ne pas perdre de temps à tomber sur des gens qui ne correspondent pas. Mais après, ça n'empêche pas les rencontres dans la vraie vie. Les rencontres.
Comme on ne voit pas les gens, comme on ne sent pas les gens, il n'y a aucune forme de tangibilité.
Mais ça, c'est pour aboutir à une rencontre, les
applications. Mais c'est du mensonge. On peut très bien dire, je ne sais pas, je suis beau, je suis grand, bien mangé,
on s'en rend
je suis riche,
compte,
n'importe quoi, il y a un petit bonhomme qui se...
Oui. Mais comme dans la vraie vie, n'importe qui peut aussi mentir...
Non, je crois. Bon, et évidemment, on peut toujours mentir dans la vraie vie, mais je crois qu'on maintient moins bien l'illusion, peut-être, quand on est réellement en présence des gens. C'est-à-dire que il y a quand même, enfin, même si je me veux matérialiste, il y a quand même tout un fluide qui passe entre les êtres et qui échappe complètement à toute matérialité, à toute par le regard, par le corps, par le. Moi, ce qui m'a alors extrêmement choqué, et j'ai beaucoup alors. La référence est implicite, hein, dans le texte sur Reich, mais où je suis extrêmement choqué quand je vois des gens qui se rencontrent par les réseaux sociaux. Ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que on voit qu'ils ont une espèce de carapace, effectivement, et que ils savent pas comment se comporter l'un avec l'autre. Ils savent pas s'ils doivent rester assis, rester debout, un sourire gêné, des gestes avec les mains un petit peu empruntés. Bref, rien de naturel. tout artificiel. Et je trouve que, bon, je ne l'ai pas mené parce que je n'ai pas assez de connaissances de Reich, mais je trouve qu'on pourrait vraiment développer pratiquement une analyse caractérielle là-dessus, sur la carapace qui devient tout à coup visible, la carapace émotionnelle qui devient visible.
Lorsqu'on a pour référence, M. Le Cercle, Mallarmé, on a une exigence du langage.
Oui.
Lorsque dans votre livre, là, on parle du rendez-vous, on parle d'André Breton.
Oui.
À un moment donné, exigence du langage.
Oui.
Lorsqu'on a, au niveau du visuel et de la rencontre, on parle des enfants du paradis, la rencontre de Frédéric et de Garance, exigence du rendez-vous.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que c'est pas deux mondes complètement différents? C'est-à-dire que les gens, avec leur connexion, sont prêts à prendre n'importe quoi et que vous faites un tri préalable?
C'est pas, oui, c'est deux mondes complètement différents et deux êtres complètement différents. C'est-à-dire, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'il faut abandonner définitivement cette idée qu'il y a un être humain. Il y a des êtres sociaux, mais il n'y a pas d'être humain. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, la rencontre telle qu'elle est faite par les réseaux sociaux, enfin, j'aime pas l'expression réseaux sociaux, mais par les applications de rencontre, c'est ce qui correspond effectivement à un être qui est adapté à la société capitaliste d'aujourd'hui. C'est pas la même chose n'aurait pas pu se passer il y a 20 ans. D'abord, ça suppose quand même que dans notre tête, il y a tout un chemin qui a été fait pour qu'on ait l'idée de rencontrer les gens par des moyens artificiels. Quoi de plus naturel qu'une rencontre? Enfin, je sors dans la rue, je vais au bistrot, je trouve une femme belle, je m'assois à côté, je discute avec elle. Ça marche, ça marche pas, mais c'est simple de rencontrer quelqu'un.
C'est pour ça que j'ai intitulé ça, où sont les morts, où sont les vivants? Et pour revenir à Charline, effectivement, ce qui se passe en Haïti, là, c'est plein de vie, c'est le feu, c'est la surprise, etc. Et c'est la chair aussi, non? Si on enlève la chair des vampires, il y a plus de vampires.
Oui, c'est vrai. Oui, aussi cette idée d'enlever sa peau, de mu et d'enlever, de se débarrasser des carcans sociaux, c'est un peu ça aussi la transformation des vampires. C'est laisser derrière soi une peau encombrante. Et pouvoir se libérer et se transformer en boule de feu et pouvoir voler.
Mais toutes vos histoires, c'est l'oralité ou c'est des...
Alors oui, tout vient de la tradition orale.
On va revenir au langage, sur toi.
Tout vient de la tradition orale. C'est comme ça que les histoires se sont transmises sur les plantations. Et aujourd'hui, moi j'étudie plutôt des nouvelles, donc écrites, mais qui n'abandonnent pas du tout l'oralité. Le langage est souvent très oral et on retrouve des modes de communication oraux. Par exemple, je pense à Cric Crac d'Edwidge Danticat, une autrice haïtienne. Et Cric Crac, ça fait référence au... C'est la formule introductive à un conte traditionnel où la personne qui raconte va dire Cric et la cour qui écoute va dire Crac.
Et ça raconte quoi, cette histoire?
Alors, ça, c'est un recueil de nouvelles. Il y a plusieurs recueils.
Parce que, et pendant tout le livre, on dit Cric Crac.
Non, c'est le titre.
Ah, c'est le titre. Hein, bon,
mais dans les contes, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, il y a des formulations qui diffèrent selon les îles.
D'accord. Et c'est un langage populaire ou pas? Parce que ce que vous racontez, c'est quelqu'un qui l'a écrit.
Oui.
C'est un écrivain, déjà.
Oui, mais ça reste très littéraire, très travaillé, qui parfois reproduit le langage oral, mais pas forcément populaire, ça dépend.
Juste pour rebondir par rapport au vampire qui est un corps, qui est une chair, on pourrait dire que la rencontre, justement, connectée, la séduction connectée aussi... Pour accepter ça, il faut d'abord se débarrasser de sa chair. Et c'est là où ça va pas. On se débarrasse d'une partie de soi.
C'est où sont les morts, où sont les vivants.
C'est ça,
on est d'accord.
C'est ça.
On va écouter. Avant d'écouter un petit peu, je vais me permettre, Monsieur Le Cercle, une petite question philosophique. Si vous la trouvez absurde, on passe à côté.
Ah, je crains le pire.
Figurez-vous que je suis fasciné moi aussi par Garance qui rencontre Frédéric. On est plein à être fasciné par ça. Il y a un crétin de critique cinématographique qui a fait un papier dernièrement qui dit, Garance dit « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un si grand amour comme nous ». Et le critique dit « Oui, mais quand Garance, elle dit ça, Arletty, elle couche avec un officier allemand, et pas n'importe qui, puisque c'est le neveu de Goebbels. » Et le type dit « Moi, je ne peux plus regarder la même scène pareillement. » Et je dis « Ce type est un con ». Et j'ai revu le film, j'ai revu cette séquence, et elle dit « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un si grand amour comme nous ». Elle est magnifique, c'est la beauté, l'état pur. Et je me dis « Merde, pendant ce temps-là, elle couche avec un officier allemand. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Le Cerf ? Est-ce que ça vous en foutait complètement ou pas ?
C'est pas vraiment pas dans le même temps, puisqu'il y a quand même un temps qui est un temps artistique, qui est celui de la réalisation du film, un autre temps qui est le temps de la vie réelle et qui est celui où elle couche avec...
C'est 43, c'est 43, c'est-à-dire que le soir, elle va coucher avec son allemand.
Hein ? Oui, mais quand elle est sur le film, elle est dans un autre monde.
Ah oui, mais là, écoutez, oui, mais ça, c'est le livre de François Krug que vous avez lu.
Oui.
D'accord. Tu l'as lu, le livre François Krug?
Non,
tu
j'ai pas eu le temps.
T'as pas eu le temps. Non. Franchement, je m'emmerde bien ce que tu fais. Voilà. Comment ça se passe? C'est Houellebecq, Yann Moix, et puis le troisième, Sylvain Tesson, là.
Si, je l'ai lu.
Tu l'as lu, je me disais bien. Oui, mais on peut dire ils sont comme ça, mais ils ont une œuvre à côté. Céline est comme ça, il a une œuvre à côté.
Ouais.
C'est,
ouais.
Non?
Oui, alors dans ce cas-là, en quoi le fait de coucher avec l'officier allemand influence-t-elle sa réplique? Et influence-t-elle sa manière d'être dans le film?
Est-ce que ça influence votre regard, vous?
Il faudrait que je revoie la scène et je dirais, je reviendrai.
Merci Monique.
The very thought of you and I forget to do. There are very ordinary things that everyone ought to do. I am living in I'm happy as a queen, and foolish though it may seem to me, that's everything, the mere idea of you. I long in here for you. You will never know how slow the moments go until I am nearer to you. I see your face. Stars above, it's just a thought of you, the very thought of you, my long in here in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you. My love.
Eh bien, quelle belle voix sur Radio Liberté, 01 43 71 89 40. Alors, pendant que Monsieur Jean-Pierre Le Cercle retrouve un peu ses esprits, sa mémoire surtout, parce que j'ai l'impression que des fois il oublie ce qu'il a écrit. Cécile.
Oui, moi j'écoute Charline depuis tout à l'heure et j'aimerais lui poser une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur la question des vampires, à faire toute cette investigation avec ce regard social que tu portes et que tu nous transmets là aujourd'hui?
Alors j'avais déjà parlé, fait un peu de recherche sur les vampires pour mon mémoire de recherche dans le cadre de mes études. Je travaillais plus précisément sur les paysages, mais c'était aussi en lien avec le féminisme, et donc c'était pour étudier des identités féminines un peu alternatives. Et vendredi, je vais faire une conférence et le thème du colloque, c'est les monstres et le bestiaire caribéen. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas revenir aux vampires et approfondir un peu le sujet.
D'accord.
Il y a une phrase qui m'intrigue, puisqu'on est là. On ne perdait rien pour un temps, monsieur le cercle. Alors, tu écris, par ailleurs, la fiction européenne, et notamment à l'époque victorienne, a contribué à la vampirisation des femmes. Et les représentant comme des éponges absorbant les émotions et les capacités cérébrales de leurs compagnons masculins. Ça veut dire quoi tout ça? Il y a un phénomène de castration. À vous.
Non. Non, mais ça faisait partie de toute une littérature qui diabolisait complètement les femmes. Et voilà, en faisant des êtres qui avaient un problème psychique, et donc voilà, qui absorbaient les énergies et les fluides corporels, notamment les prostituées, voilà, qui, comme si elles absorbaient les fluides corporels et vitaux de leurs compagnons masculins. Et voilà, mais pas de castration.
Il n'y a pas un phénomène de dévalorisation du phénomène masculin ou pas?
C'est-à-dire
qu'actuellement, il y a deux crétins en particulier, un qui s'appelle Beck BD, je ne sais pas si ça vous inspire, Beck BD, et puis un espèce de, je ferai une parenthèse, Pascal Bruckner, qui a écrit un livre, des articles contre ces mouvements féministes qui s'en prennent à la virilisation des hommes, à l'effacement des hommes. Ce n'est pas du tout ça.
Non, mais c'est ça, pour moi, c'est juste les hommes qui ne comprennent pas que le patriarcat les impacte négativement aussi. Et que la question de virilité, même telle qu'on l'entend aujourd'hui, est à remettre en cause. Et c'est notamment ce que ces vampires permettent de faire en s'attaquant aux hommes et à leur masculinité, en usant de leur pouvoir de séduction et en les ridiculisant, parfois en les tuant. C'est justement pour montrer que ce concept de masculinité et de virilité a changé.
D'accord. Parenthèse, le crétin Pascal Bruckner a écrit en 68 un Charles Fourier, et qui n'est pas détestable du tout. Comme quoi, on peut tout faire. Monsieur Le Cercle, je tiens à vous dire, parce qu'il y a une contestation, monsieur, il conteste ce que je lis. Alors, prendre mon élan et la dépasser de quelques mètres, puis me retourner et venir à elle, un peu comme Pierre Brasseur lorsqu'il aborde Arletty sur le boulevard du crime. C'est marqué, monsieur.
Oui.
Hein, d'accord. Oui. Non, j'ai dit ça comme ça, c'était pas...
C'était l'émotion.
C'était l'émotion. on commence ce livre, c'est Rencontres et séductions connectées, Place d'Armes, Jean-Pierre Le Cercle. On commence là par une mise en cause du capitalisme. Ou une interrogation sur le capitalisme. Oui, c'est... Oui.
Non, je n'ai pas d'interrogation sur le capitalisme, c'est il est là.
Non, mais est-ce que c'est encore une fois, on met ça dans la moulinette, c'est le capitalisme qui serait responsable de tout ou pas?
Est-ce que c'est le capitalisme qui est responsable de tout?
Oui,
capitalisme comme notre société, comme la société athénienne était responsable de l'esclavagisme, etc. Sûr. Le capitalisme est aussi responsable parce que il les fait des hommes qui vivent en ce moment. Mmh. Donc oui, alors, mais le départ, c'est pas simplement la responsabilisation du capitalisme. Le départ, c'est essayer de montrer finalement que lorsqu'on essaye de prendre un phénomène social comme la rencontre et comme l'amour, qui est, quoi qu'on en dise, c'est un phénomène social quand même, l'amour. Donc quand on essaye de réfléchir là-dessus, si on sort effectivement d'une pensée de type sociologique ou au moins déterministe, ça marche pas. On en vient à dire des bêtises. Et le Ménéto, Richard Ménéto, donc c'est celui qui me paraît le plus caricatural de ce point de vue-là. Donc le départ, c'était de montrer effectivement que on pouvait pas saisir ce phénomène, ou que si on le saisissait en dehors du capitalisme, en dehors d'une détermination capitaliste, on en venait à dire des bêtises.
Jean-Pierre, il y a plusieurs sites de rencontres. Il y a celui où on va chercher par exemple une escort girl, où l'argent va intervenir. Oui. Et là, dans les rapports que Charline évoquait tout à l'heure, les gens qui recherchent, il n'y a pas d'argent qui rentre dedans. On cherche quelqu'un, on n'est pas là pour payer quelque chose.
Ah non, non.
Hein, on n'est pas là pour payer quelque chose.
Oui, mais alors, les sites et applications, donc c'est simplement de l'argent, ou c'est l'argent qui prime, ça donne simplement une vision un petit peu caricaturale, une vision outrancière du phénomène de rencontre par rapport, avec des sites, via les sites ou applications de rencontre. Le constat de base est le même, à savoir, de toute manière, je ne suis plus maître de la rencontre. Je sors dans la rue, je suis maître de la rencontre, je suis maître d'aborder qui je veux, alors que déjà j'arrive sur un site, que ce soit un site vraiment avec des fins uniquement sexuelles, oui, ou alors une coloration romantique, c'est toujours pareil, de manière je n'aurai choix que dans un panel.
Alors, est-ce que tu ne penses pas, c'est là qu'on va être en désaccord peut-être, que c'est beaucoup plus large et qu'on va lâcher un mot un peu passe-partout, parce qu'il faut aller vite à la radio, c'est le monde orwellien qui est là.
Tout à fait.
Ça dépasse le capitalisme.
Non, Orwell décrit le monde capitaliste.
Il décrit pas que le capitalisme, il décrit une évolution humaine qui dépasse le capitalisme.
Il n'y a pas d'évolution humaine, il y a une évolution sociale.
C'est pas le mot que j'emploie, une évolution historique.
Oui, ou historique.
Voilà.
Historico-social.
Mais oui, tu disais que c'était un monde orwellien, mais dans les applis de rencontre, il n'y a pas la dimension d'autoritarisme et de dictature.
Ouais. Mais elle est masquée. Elle est masquée.
Oui, peut-être, oui, je n'ai pas réfléchi là-dessus par rapport à ça.
S'il n'y a pas cette dimension d'autoritarisme, qu'est-ce que tu lui reproches? C'est un jeu comme un autre. Là, je fais la part de l'avocat du diable. Je m'y mets.
Il y a des jeux qui sont quand même plus ou moins sympas à jouer. Et ce jeu de la fausse rencontre me paraît tout à fait idiot et tout à fait pas du tout sympa à jouer.
Oui.
Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question.
Non, je veux dire qu'en te lisant, je t'ai lu avec grande attention, Je pense que c'est intégré dans quelque chose que tu ne dis pas. Il faudra un nouveau livre. C'est-à-dire qu'on est dans un basculement de l'histoire. C'est-à-dire que la lutte de classe, tout ça, est en train de vaciller au profit d'une abstraction. Ça, tu peux pas aller me...
Oui.
Non ?
Oui. Non, alors, on est probablement effectivement dans un basculement, dans le sens où les êtres qui ont 20 ans, 30 ans, même 40 ans aujourd'hui, n'ont pas connu autre chose que le capitalisme, alors que nous, on a connu quand même... les gens de ma génération ont connu une autre société qui était aussi capitaliste, mais bon, qui n'était pas aussi intégrée qu'aujourd'hui. Et donc, nous, on avait quand même des traces d'une autre société qui était fondamentalement différente. Qui était toujours fondée sur le profit, sur l'aliénation. Ça, c'est pas contestable, mais bon, c'était pas la même société.
Oui.
On avait d'autres points de repère.
Ta mémoire est une mémoire faite d'histoire.
Oui.
Est-ce que celle de Charline est différente? Elle est plus abstraite.
C'est pas la même histoire, en tout cas, ou c'est pas la même histoire.
Mais je pense que c'est très différent. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas imaginer autre chose que ce qu'on a connu, je pense. Sinon, on voudrait rien changer.
Mais quand tu travailles sur Haïti, tu sais très bien ce qui se passe en Haïti.
Oui, mais comme je ne peux pas me rendre compte personnellement vraiment de...
Mais tu as des textes, il y a des textes, il y a des journaux, il y a tout ça.
Des documentaires, plein de choses, bien sûr. Mais comme il y en a sur les générations d'avant et l'histoire qu'il y a eu avant, on n'est pas totalement coupé de ce qui s'est passé avant, dans le passé.
D'accord. Charles Estienne, c'est le type qui est très brillant, qui faisait partie du groupe Surréaliste dans les années 60, et qui a fait ce très beau texte sur le premier Léo Ferré, poète d'aujourd'hui. Je sais pas, vous l'avez, poète d'aujourd'hui. C'est un très beau, il faut le relire, ça.
Chez Segers.
Chez Segers. C'est ça. Et il dit, à un moment donné, il dit cette phrase, il dit, il se peut que le Moyen-Âge soit mort avec la chute de la Commune. Ça veut dire, avec Haussmann arrivant, on réinvente quelque chose dans l'âme. Mais nous, ce qu'on vit actuellement, là, tu parles des écrans, tu parles de tout ça, tu tombes dans une situation, avec l'Ukraine et avec Gaza, dans une situation qui est complètement une situation historique. C'est-à-dire que nous, tu fais une critique du monde dans lequel on est, mais tu fais une critique parce qu'on est extrêmement privilégié dans ce monde-là, nous. On sera pas d'accord. J'ai mis ma banderie, je t'avais prévenu.
Privilégié, je suis pas sûr.
T'es pas privilégié. Non, faut. Il y a un tract de la
France.
Je vais pas
répondre là-dessus.
Il y a un tract de la France insoumise qui dit que les gosses des banlieues sont traités comme les gosses de Gaza.
Ça me paraît un peu excessif.
Ben voilà, c'est exactement ce que je veux, chérie, non?
Peut-être que dit comme ça, c'est un raccourci, mais je pense que ce qui est derrière, c'est l'idée qu'une vie vaut plus qu'une autre, et donc une différence de traitement, même si c'est incomparable avec ce qui se passe à Gaza. Peut-être que, oui, la formulation est mauvaise, mais je comprends, dans une certaine mesure, ce qui est dit.
Ce capitalise avec ses écrans, etc., nous offre des contradictions de jouissance. C'est-à-dire que tu peux t'acheter l'opéra pour 5 euros, tu peux voir tout un cinéma qui va te combler, etc. Mais nous, on va prendre ce cinéma ou cet opéra parce que tu appartiens à une classe culturelle donnée. Ceux qui vont sur les... qui usent des... Et ça, c'est très étonnant ce que dit Charline, là, qui usent des réseaux sociaux... ont aussi une culture, c'est-à-dire je suppose que tes amis ne vont pas avoir le même usage que n'importe quel bourrin, voilà, il y a tout un niveau culturel. Quand je te dis que ton livre, les rapports que tu as, c'est André Breton, c'est, je crois qu'il y a Bataille peut-être, il y a Shakespeare, etc. C'est un rapport extrêmement privilégié au langage que tu as et au monde.
Non,
t'es pas privilégié.
Non, c'est le rapport. Enfin, le rapport que tu dis privilégié que j'ai avec le monde, c'est le rapport tel que l'avaient tous les êtres qui ont eu effectivement une instruction digne de ce nom dans une école qui n'était pas l'école d'aujourd'hui. C'est pas de ma faute si les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes références.
Parce que tu crois que tous les gens de ta génération ont des rapports avec Breton, Shakespeare et Debord?
Dans un monde bien donné, bien sûr. Donc on ne peut que regretter que les gens qui arrivent aujourd'hui n'aient pas ces référents culturels aussi. On peut que regretter qu'il y ait des pans de la culture qui tombent dans l'oubli petit à petit.
L'exemple le plus flagrant, et après on va passer un peu de musique et puis on va prolonger notre discussion.
Oui. Moi je voudrais juste revenir sur les sites de rencontres et les sites d'applications pour renforcer un peu l'idée que Jean-Pierre Lecercle évoque, à savoir que il y aurait chez l'utilisateur des sites cette idée d'être cette liberté. Cette illusion de la liberté d'aller chercher qui il veut au plaisir de, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement illusoire, parce que quand on regarde bien les sites de rencontres, c'est très profilé. Tout est profilé de par la programmation même des sites. Et ça, je crois que c'est quand même essentiel dans l'utilisation du site et dans l'illusion que génère l'utilisation du site par l'utilisateur. Voilà, je voulais quand même...
Tu as quasiment annoncé la suite, ce sera sur le hasard, sur le hasard.
Et ça change tout.
Par rapport à ta culture et ta génération et tout ça, on va revenir à Pasolini. Pasolini qui dit que les... que 68 est fait par des petits bourgeois. Ça, il ne faut pas le dire sur Radio Liberté. Mmh. Je le dis quand même. Est fait par des petits bourgeois. Et qu'en face, les flics qui tapent sont des fils de paysans complètement illettrés. Mmh. Et c'est juste. C'est-à-dire que là, tu es dans la lutte de classe la plus primaire. Mais t'as le flic qui tape sur des gens qui font des gens qui vont à l'université comme toi, qui vont connaître le beurre comme toi. Voilà. Et qui n'auront pas le même usage plus tard des réseaux sociaux.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est, je voulais dire pas plus que ça. Hein. Voilà. Monique, merci.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she me. Don't want to live her now. Better believe in how. Somewhere in her smile. Don't want to leave her now. I better believe me now. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around. Think of her and
so, aren't they? In a face that she shows me. I don't want to leave her now. Better believe in how. Do.
Au 01 43 71 89 40. On en apprend des belles sur Radio Liberté, sur la ponte des œufs. Bah oui, Cécile me faisait noter, parce qu'elle écoute tout, etc., qu'à plusieurs reprises, je me suis permis des familiarités à votre égard, mademoiselle. Tout ça, bah, je la connais depuis l'enfance et bien avant. Bon, c'est fini, maintenant on dit mademoiselle Charline Dossa, ça sera beaucoup mieux. Alors, précisez aussi qu'il y a un très grand. On est dans un très, très. Peut-être un des langages les plus intéressants au niveau poétique actuel, c'est Franck Etienne, poète haïtien. Donc, si vous arrivez à trouver Anthologie secrète, Mémoire d'encrier, c'est au Canada, c'est ça? Ça doit être au Canada. C'est ce qu'on fait quasiment de mieux en poésie. Franck Etienne, Anthologie secrète, Mémoire d'encrier, essayez votre chance. Aussi, après Onde de choc, eh ben, il y aura une émission de Trou Noir avec Nicolas, je crois, une émission sur les revues. Moi, je présenterai In Toto numéro 5, qui est sorti il y a quelques mois, là, pour vous dire que à Quilombo, 23 rue Voltaire, Paris 75 011, vendredi 3 mai à 19h30, je prendrai mes responsabilités. Journal inactuel de l'oubli d'Abdoulkader El-Janabi, c'est aux éditions Asymétrie, et c'est ce qu'on fait au niveau du langage poétique et poésie, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement. Alors si vous êtes à Paris, de retour de Berlin, Charline Dossa, vous pouvez venir à Quilombo, 23 rue Voltaire, Paris 75 011, c'est vendredi 3 mai à 19h30, mais j'en reparlerai tout à l'heure pour Journal inactuel de l'oubli d'Abdoulkader El-Janabi. Oui, bon, moi, la grande, ça, c'est si l'ami, qui est une femme perspicace, elle voulait pas parler, mais elle parle maintenant, c'est très bien. Le gros problème, c'est le problème du hasard.
Oui.
Voilà. Et si on abolit le hasard, il reste plus grand-chose.
Oui. Heureusement qu'on n'a pas toujours l'aider pour abolir le hasard.
Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion très, très, très pointue, voyez-vous,
très
ça.
Malarméenne.
Ça, c'est très pointu, bien sûr.
Non, bah oui, le hasard, mais en même temps, bon, c'est vrai que le hasard fait bien ou fait pas bien les choses. Le hasard, c'est quand même ce qui est au centre de la rencontre amoureuse et de la rencontre inopinée, quoi, la rencontre à laquelle on ne s'attend pas. Mais en même temps, c'est vrai que on rencontre toujours dans un même milieu, on rencontre toujours dans une même brochette. C'est ce que j'ai un moment, c'est-à-dire que si je m'amuse à faire la sortie des églises le dimanche, je suis pas sûr que j'arriverai vraiment à faire
ça. Faites ça, monsieur le cercle, vous avez bien changé. Le grand chavirement au début du siècle, années 24 environ, 24, c'est Breton qui a défini le hasard de façon très pointue.
Nadja.
Bon, mais là, alors là, c'est très cruel, parce que le destin de Nadja, après sa rencontre avec Breton, c'est pas terrible, elle finit dans un asile.
Ouais.
Hein. Et c'est pas du tout, j'ai envie de dire, on va revenir au phénomène du culturel, c'est pas du tout le même niveau culturel. Hein.
Ouais.
On a le dandy malarméen, parce que c'est ce qu'il est, notre ami Breton, et puis là, on a quelqu'un dans la matière qui, aux limites, il se demande même si elle n'est pas prostituée au départ, etc. Hein. Voilà. Mais mademoiselle Charline Dossa, puisque monsieur Le Cercle fait les sorties de l'église le dimanche, moi je préfère aller faire les troncs d'église. Vous connaissez le film de Bourville?
Mais oui,
de
avec Bourville.
C'est un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky. Oui. Tu n'as pas jamais vu ça? C'est un type qui a un fil de fer avec un chewing-gum et qui glisse dedans et qui ramasse les pièces.
Mais dans son parapluie.
Dans son parapluie,
c'est ça,
oui, très bien, oui. C'est très très bien. Haïti, c'est. C'est quoi, c'est chrétien ou c'est du vaudou ou...
Il y a les deux. De ce que j'ai compris, le vaudou est un peu partout et les histoires continuent de se transmettre, mais le catholicisme est quand même très présent. Mais c'est pas pour autant que les traditions vaudou et les histoires et les personnages du folklore se perdent. Je pense que tout se mêle un peu. comme, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais comme en Grèce antique où les dieux étaient partout. Je pense que c'est un peu ça avec le vaudou, qu'on les retrouve dans la nature, voilà.
Tu connais la fameuse histoire que Breton, qui est un Breton, avait dit « la beauté sera convulsive ou ne sera pas ». Et Wilfredo Lam, qui était originaire des Caraïbes, l'emmène voir une cérémonie vaudou. Il y a du feu qui sort comme ça, il y a des doudous qui se roulent par terre, c'est la transe. Et Breton se sent mal. Et puis Wilfredo Lam a dit la beauté sera convulsive.
C'est extraordinaire.
Donc, en fin de compte, ton livre. Alors, c'est diffusé où? Parce que dans ton petit village où il y a 8
Non, il n'est pas encore. On attend de faire une librairie pour qu'il
D'accord.
soit. Mais on peut trouver le livre donc à Publico, évidemment, Quilombo, et Libre à lire. Donc, est une librairie qui est rue Saint-Maur, au 116 rue Saint-Maur, à La Petite Lumière, 14 rue Boulard, dans le 14e.
Bah c'est la gloire, hein.
Exactement.
C'est la gloire. Donc tu as tenu dans ce livre, il y a des parties qui se succèdent. Une, j'ai envie de dire, de réflexif, et puis à chaque fois des narrations de rencontres amoureuses. Et ton thème général, c'est en fin de compte, l'amour implique une réinvention du langage.
Oui.
C'est ça ou pas?
Oui.
D'accord.
Si. Ouais, pas une réinvention, une invention du langage.
Une invention du langage. Non, ça vous semble rien, Charline de Saint,
ou pas? Si, je suis d'accord.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
On a toujours besoin de réinventer des termes pour qui s'adaptent à de nouvelles réalités. Donc ça concerne l'amour ou autre chose.
Oui, non. Et puis c'est le fait que chaque langage, chaque mot, chaque virgule, chaque toute expression ou tout ce qu'on peut dire à l'autre à ce moment-là, c'est je vais le dire une chose à Cécile et avec le même sentiment, je dirai une autre chose à Géraldine. Par exemple, c'est un exemple. Le langage est adapté, c'est un échange vivant, la séduction, la rencontre, c'est un échange vivant, donc nécessairement, c'est un langage qui est propre à la rencontre, qui est propre à chacun des êtres qui se rencontrent.
Bon, deuxième branderie de l'émission, là, puisque vous passez en italique. Tu passes en italique, ça s'appelle l'intermède, hein.
Oui.
Oui. Est-ce que tu n'es pas dans la littérature, là?
Si, tout à fait.
C'est bien.
Oui.
Tu fais de la littérature.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas. Alors, pour une raison bien simple, c'est que le livre s'efforce de montrer finalement que on a perdu une certaine idée de l'amour, une certaine idée de la rencontre. Et alors, à partir de là, ou bien effectivement, je faisais de longs développements théoriques pour essayer d'expliquer ce qu'était la rencontre avant, comment ça se passait, etc. Ou alors, et c'est ce que je me suis dit, la rencontre de manière telle qu'elle existait auparavant n'existe plus, donc je la renvoie à la fiction, et c'est pour ça qu'elle apparaît uniquement dans des fictions. Et puis, pour une autre raison aussi, c'est que je crois qu'on ne peut pas toujours dire dans une forme convenue. Je crois que quand on veut apporter un message particulier, on est forcé un petit peu quand même de faire un travail minimum sur la forme. J'ai pas envie d'écrire comme de faire un sermon sur les rencontres. J'ai envie de choses peut-être un petit peu plus ludiques.
C'est très marrant parce que les premières pages du livre, vous dites, non, il y a des gens qui font ça, mais moi, je ne le ferai pas. Il y a une mise en garde.
Oui.
Pourquoi cette mise en garde?
C'est une dénégation.
C'est quoi?
C'est une dénégation.
Oui, pourquoi? J'ai pas compris pourquoi, puisque vous êtes dans la matière, vous y allez. Là.
Oui, oui.
Et parce qu'on dit, non, je vais pas faire comme les autres, mais en même temps, je vais quand même faire comme les autres.
Je vais vous le dire.
C'est les premières. C'est marqué. En quelques mots, cette querelle qui m'oblige à rappeler évidence et banalité de base. Imaginez qu'il existe une médiation entre les faits quotidiens et sociaux dans la rencontre connectée, etc. Vous dites des gens font ça, des gens disent comment ils procèdent. Moi, je ne le ferai pas. Vous le dites. Ah si, on regarde. Je vais vous le dire. Parlez même des gueules à un moment donné. Vous dites voilà, des gens mettent en garde. mettre en garde, et moi je ne vous mettrai pas en garde, et vous mettez quand même les gens en garde.
Oui, oui, non, c'est parce que. Non, c'est parce qu'il y a nombre, alors, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est, il y a tout un tas de gens qui commencent leur livre en disant oh là là, mais alors si vous saviez ce que c'est difficile comme sujet, oh là, si vous saviez, comme. Je ne sais pas si j'ai bien traité, d'ailleurs, j'ai sans doute pas la totalité du phénomène, etc. Moi, pas du tout, je crois que j'ai traité le truc tout à fait dans son entièreté, effectivement. Moi, je ne vais pas faire comme tous ceux qui disent dès le départ, qui constatent une sorte d'échec de leur réflexion dès le départ. Donc, et par rapport, alors, toujours dans le monde culturel, donc les banalités de base, c'est Van Egem. Hein. Mmh.
Mais j'ai pas de sympathie pour Van Egem. Oui, il a écrit un poète d'aujourd'hui. Là, j'ai un trou de mémoire. C'est une catastrophe.
Ouais. Non, Van Egem, c'est bien 67. En 65, pardon, le traité Savoir-Vivre, c'est bien.
Puis, une génération, oui.
Après, il s'est répété, il a fait toujours la même chose, je trouve. Il y a un ami qui disait si Van Egem avait 17 ans, ce serait bien ce qu'il écrit aujourd'hui. Mais bon, il a plus 17 ans, quoi.
Avant de revenir, on va faire une petite parenthèse avant de se quitter sur le yiddish, on va en parler. En Haïti, c'est quoi? C'était du créole? C'est quoi?
Oui, le créole haïtien.
Oui.
Mais donc, il y a une forte influence de l'anglais et du français. Mais oui, la langue parlée, c'est le créole haïtien.
Et les gens dont vous parlez qui ont écrit, écrivent en quelle langue?
L'autrice que j'ai mentionnée tout à l'heure, d'Anticat, elle écrit en anglais, ce qui est assez rare pour les auteurs contemporains haïtiens. Mais elle a aussi vécu aux États-Unis. Mais elle inclut aussi du créole dans ses textes, parfois. Mais plutôt de l'anglais.
Il y a un film de Gillo Pontecorvo, qui est un cinéaste politique, qui s'appelle, ce type, c'est Kemada. Je ne sais pas si des gens l'ont vu. Mmh. C'est sur votre sujet, ce qui s'est passé en Haïti, à Saint-Domingue, en 1804. Comment les Anglais sont arrivés, c'est avec Marlon Brando, c'est somptueux comme film. Kemada, ça veut dire terre brûlée, c'est une des îles au large de Saint-Domingue. Oui, alors, je sais tout, on me dit tout, c'est Cécile qui me téléphone de temps en temps, qui m'a dit que vous étiez...
J'aurais dû m'en douter.
D'accord. Donc, tu as commencé à apprendre le yiddish.
Oui.
Voilà. Et pourquoi? Outre le côté...
Oui, alors, toujours pour travailler sur ce sujet, donc des anarchistes et des juifs, c'est que... tu vas dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais les anarchistes, essentiellement juifs, c'est ceux qui venaient d'Europe de l'Est. Et ils communiquaient entre eux essentiellement en yiddish. Rudolf Rocker explique bien ça quand il arrive à Paris, Rudolf Rocker en 1892, qui travaille un petit peu, qui rencontre deux, trois militants. Il va dans une réunion et dans une réunion d'anarchistes juifs, son copain lui dit « Allez, viens, on va voir des anarchistes juifs ». Il lui dit « Mais ça va pas ». Il garde vraiment l'idée, Rocker, que le juif est nécessairement religieux. L'autre dit « Non, écoute, ils sont pas du tout religieux, tu vas voir ». Et il arrive dans un café à Barbès qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait chez Charles. Au premier étage, il y avait une grande salle de réunion. Il arrive et puis il voit sur la table des journaux avec des caractères bizarres. Et les gens parlent yiddish entre eux. Et donc le milieu anarchiste juif était un milieu qui était yiddishisant, ou yiddishiste.
Donc ce sont des langues composées d'Europe de l'Est.
Alors le yiddish est une langue de fusion. C'est-à-dire que c'est une langue, alors l'histoire elle est compliquée, hein, puisque ça vient en gros d'Alsace, et puis au fur et à mesure qu'il y ait des persécutions en France, donc ils ont avancé vers l'Europe de l'Est, et petit à petit la langue s'est chargée comme ça de tout un tas de dialectes différents. Alors, ce qui fait qu'il y a des grandes aires linguistiques en yiddish. Si on se rapproche vraiment de l'Union soviétique, il y a beaucoup de mots slaves. Par contre, si on se rapproche plus de la Pologne, c'est beaucoup plus des mots allemands.
Il y a une influence religieuse sur le langage ou pas?
Oui. Puisque alors déjà puisque c'est il y a certains mots, c'est une chose qui est amusante, c'est que suivant ce que veulent faire comprendre les auteurs, parfois ils utilisent des mots de la Mamelochen, c'est-à-dire du yiddish, ou alors au contraire de la langue sacrée. Et souvent ils ont tendance effectivement à utiliser la langue sacrée pour une raison bien simple, c'est que la plupart des enfants dès l'âge de 6-7 ans, ils étaient au cheder, c'est-à-dire ils apprenaient la Torah, les références qu'ils peuvent utiliser pour essayer justement d'avoir une complicité plus fine avec les autres sont des références qui souvent sont prises dans la Bible, qui sont détournées effectivement dans un sens très très laïque, mais qui sont prises dans la Bible. Et dans ce cas-là, ils utilisent beaucoup plus de mots hébreux que de mots qui proviennent de l'allemand.
D'accord. C'est un yiddish écrit ou parlé sur lequel tu travailles ?
Non, moi c'est un yiddish écrit. Les journaux en langue yiddish qui existaient, qui étaient destinés donc au milieu ouvrier, et puis les mémoires aussi. Alors il y a beaucoup de mémoires de militants anarchistes qui écrivaient en yiddish. Donc
tout ça, c'est le phénomène du langage.
Ben oui.
C'est le phénomène du langage. Oui. C'est la grande clé de ton livre.
Ben oui.
J'ai envie de dire un gros cliché, et puis de ton travail, c'est la grande clé de tout, le langage.
Oui.
Hein, le langage.
Oui.
À un moment donné, c'est la fin du livre, on va conclure là-dessus, tu parles de la solitude, de ta solitude. C'est marqué. Je vais le retrouver, c'est pas ce qu'il écrit. Tu parles de la solitude. Ah, voilà, je l'ai trouvé. C'est bien. Je te lis ou pas ?
Vas-y.
Je te remercie. Tu sais pourquoi tu fais ça ? C'est pour que je te lise. Et cette difficulté, ce devenir presque impossible de la critique sociale radicale, cette souffrance intérieure, conduisent inexorablement à une solitude essentielle, au sens où Maurice Blanchot, je crois, employait cette expression durant de terribles instants.
Tout à fait.
Tu parles de ça ?
Oui.
Je veux dire que cette solitude, tu l'as marqué dans ton livre,
oui,
je n'ai pas rien.
Oui.
C'est celle du langage. Comment veux-tu ne pas être seul, entre guillemets ? Hein, je mets bien ça là. En te penchant sur Mallarmé.
Mm.
Bien sûr, Mallarmé implique une solitude.
Oui.
Hein, vu la difficulté du langage, tu prends pas le rapport de base.
Oui.
Hein, voilà.
Mais là, c'est une solitude par rapport justement à tout ce qu'on pourrait appeler la théorie radicale et qui n'est plus forcément partagée aujourd'hui. C'est-à-dire que au moment de d'écrire quelque chose sur la société, au moment d'essayer d'écrire un phénomène social, on ne peut que se demander qui va me lire, qui va comprendre. Et est-ce qu'aujourd'hui, les esprits et les oreilles existent toujours pour entendre ce que je dis et pour comprendre ce que je dis ? Et je suis pas seul à faire ce constat. Tous les gens de ma génération font le même constat. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, effectivement, référents culturels et on appartient à des mondes qui sont différents.
Avant de conclure, quatrième banderille, mais je la retiens pour moi, et on va arrêter là. je réfléchis jamais en termes de génération. On verra dans une autre émission, tu reviendras. Charline, toi, vous, je vais vous dire vous, madame Charline Dossa, excusez-moi, on peut vous entendre faire une c'est votre conférence.
Oui, ce sera vendredi à Aix-en-Provence. Et voilà, c'est un colloque sur deux jours, jeudi et vendredi, sur le thème des monstres caribéens.
Et tous ces textes qui vous servent de base là, à votre travail, c'est traduit en français ou pas ?
La plupart, oui.
D'accord.
La plupart.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait lire si on voulait
Celui que je conseillais, Cric-Crac d'Edwidge Denticat, une autrice haïtienne. J'ai aussi travaillé sur At the Bottom of the River de Jamaica Kincaid, qui elle vient d'Antigua. Et je conseillerais aussi The Pain Tree d'Olive Senior, qui elle vient de Jamaïque.
Et c'est publié en français, ça ?
Alors, At the Bottom of the River et Cric-Crac, oui. The Pain Tree, je ne suis pas sûre. À vérifier. Mais bon, pour celles de ceux qui parlent anglais,
c'était un plaisir de vous avoir. Vous avez rencontré monsieur Jean-Pierre Le Serre qui a publié Rencontre et séduction connectée aux éditions Place d'Armes. C'était un plaisir. Et puis on remettra ça, on aura une discussion.
Au moins sur les générations.
Cécile, c'était un plaisir, Cécile.
Oui, merci.
Et puis en cabine, on remet aussi bien sûr Monique. Hein.
Merci Monique.
Qui en connaît un rayon sur les poules et l'œuf. Hein. Ça, elle connaît ça, c'est vraiment un chapitre. Merci à tous les trois.
Merci.
Sur Radio Liberté à 89.4.
Chaque petit recoin d'amour enfermé à double tour, comme des enfants brimés, la punition pour seule liberté. jeter nos cœurs. On a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt encore. On construit de belles et grandes forteresses, même si chaque pierre nouvelle nous plonge dans la détresse. Cette cage étroite nous oppresse, nous empêche d'inventer un monde d'allégresse. Je vis en toi, en toi. Le vent tonne des bruits sourds, des portées, le soleil rouge a séché. Nos tendres aînés ont laissé la porte fermée. Où sont jetés nos cœurs. On a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt encore, ils meurent. D'orgueil et d'inconscience, dans des cages immenses de silence, vous élevez des enfants pour la potence. Nous sommes en tôle, en tôle, en choisirons-nous d'être briques de parures et illusions, ou libres là sans raison? Par leurs caresses ensorcelantes, les hommes bien taillés me font perdre la conscience. À la recherche des bras pour soigner l'inapaisé, chaque jour porte son héros. Je me laisse dévorer. Lui et moi jouant cette chimérique romance, antidote sur mes plaies. On se baigne dans des eaux si troubles, j'ai peur de me noyer. Sans la bouée du sortilège, mon cœur sonne le retrait. Lui et moi jouons cette chimérique romance. Un doux baiser comme antidote sur mes plaies. Je visite ces bâtisses en pèlerin. Des souks, leur tendresse raffinée. Je collectionne des pierres précieuses, flamboyantes à souhait. Elles perdent de leur éclat sur l'autel du jour levé. Lui et moi jouons cette chimérique.
As-tu vraiment aimé?
le vent. Tu es parti avec le vent.
Volta pra mim. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, après la voix charmeuse modique, Serge au micro. Voilà, donc une présentation rapide du sujet du jour. Donc, je vais commencer déjà par le monde libertaire. Vous allez voir pourquoi. Parce que le superbe monde libertaire de ce mois contient une recension, plusieurs recensions de livres, dont L'ordre contre l'harmonie de Charles MacDonald, que nous avions présenté, si je me souviens bien, le 18 février dernier avec Charles, voilà. Et puis, une recension d'un autre livre qui est sorti un peu plus récemment, tout à fait, il n'y a pas longtemps, « Homo domesticus, une histoire profonde des premiers états » de James C. Scott. Voilà. Donc, justement, ça tombe bien. Dans nos studios, on n'a pas James et Scott parce qu'ils passeraient très rarement en France. Et en tout cas, on n'a pas pu faire un rendez-vous avec lui. Mais on a Charles MacDonald et on est bien content qu'il soit avec nous. Et on a aussi Patrick du comité de rédaction du Monde Libertaire. Voilà. Avant de demander un peu, poser quelques questions à Charles pour présenter un petit peu Charles, rapidement qui est James Scott et puis aussi... de parler de ce livre, de la version anglaise du titre. Je crois qu'il y a une chose en plus que qu'il y a dans le titre français. Bon, je me suis permis de petites citations pour nous mettre un peu dans l'ambiance. D'abord, une interview de James Scott que j'ai lue, je ne sais plus sur quel journal ou sur Internet. Il rappelle une chose qui, pour nous, anarchistes, est évidente, mais pas forcément pour tout le monde. L'État n'a pas été créé pour protéger les populations, mais pour mettre les gens au travail. Voilà. Et puis une deuxième citation, toujours James Scott, mais celle-là dans le livre dont on va parler aujourd'hui, qui me plaît assez bien d'ailleurs. « L'histoire est la discipline la plus subversive, car elle nous révèle comment les choses que nous considérions comme évidentes sont réellement survenues. » Donc on va parler d'une histoire... peut-être profonde ou peut-être la dépisterie, justement, on en parlera justement un petit peu en introduction avec Charles. Mais d'abord, si tu peux nous très rapidement nous dire qui est James Scott, et puis aussi nous parler du titre anglais du livre. D'ailleurs, je crois que tu l'as lu dans la version anglaise, si je me souviens bien. Voilà.
Jim Scott, je ne suis pas spécialiste de Jim Scott, mais j'ai lu bien sûr un certain nombre de ses ouvrages, ses articles. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. On se connaît et il y a eu des rencontres avec lui à l'occasion notamment d'un ouvrage qu'on avait préparé à Singapour sur les noms personnels. Il avait travaillé là-dessus, moi aussi. Et donc, il avait fait une petite préface pour l'ouvrage que j'avais édité avec une collègue chinoise sur cette question à Singapour. Et on avait parlé des différents sujets, justement, touchant à cette histoire de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe depuis longtemps, disons, d'une histoire un peu subversive, une histoire vue d'en bas, une histoire vue des paysans. Et là, il fait une histoire qui suit son ouvrage